Chico.
Ok.
Et nous voilà pour une émission carnet de route du projet Samarconde.
I'll do it.
Samarconde, c'est la possibilité pour tous les jeunes qui le désirent de s'exprimer en toute liberté.
Salut, salut à tous.
Bonjour, Bilal.
Bonjour, monsieur.
Bonjour, Nix.
Bonjour.
Bonjour, tout le monde.
Bonjour.
Bonjour.
Je suis en train de grandir, mais c'est dur, quoi.
Vous respirez, je vous pense que vous êtes plus à l'aise.
Vous pouvez parler franchement, ça me dérangerait pas.
On est sur Terre, on l'a peut-être pas demandé, mais on peut vivre avec.
Qui on est pour juger quelqu'un d'autre?
Les carnets de route, ce sont des projets éducatifs proposés par l'AMO Samarcande. Bonjour à toutes et bonjour à tous, et nous revoilà pour un carnet de route aujourd'hui en compagnie d'Ambert. Aujourd'hui, on ouvre un nouveau carnet de route et le thème, c'est encore l'appartenance. Ce n'est pas simple comme mot, mais on va essayer de lui donner un peu de sens ensemble avec Ambert aujourd'hui. Bonjour Ambert.
Bonjour.
Pour ta présentation, Ambert, tu as un jeune Bruxellois qui a 21 ans.
C'est bien ça.
Et alors, on se connaît un peu parce que ça fait quelques années que tu fréquentes le service.
6 ans.
6 ans. Et aujourd'hui, je t'ai vu par hasard, t'es passé et puis tu t'es proposé pour faire de la radio avec moi.
C'est ça.
Et donc, comme je le disais dans le petit générique, c'est un carnet de route un peu particulier sur le fil de l'appartenance. Et donc, je vais te poser une petite série de questions qui va parler d'appartenance et qui nous permettra après, avec tout le nombre de jeunes que nous allons rencontrer, de nous faire une idée de ce que signifie appartenir. Et on va cheminer ensemble aujourd'hui à travers des petits jeux que je vais te proposer et des questions beaucoup plus ouvertes.
Parfait.
Alors, ce que je te propose, c'est un mini-jeu d'accord, pas d'accord pour commencer, Ambert. Beaucoup d'adultes sont souvent des modèles inspirants pour vous, les jeunes.
Pas d'accord. Je pense que je prendrais pas vraiment exemple sur des adultes tels que Donald Trump ou Adolf Hitler ou Mussolini. Il y a beaucoup d'adultes qui ne sont pas vraiment exemplaires et voilà.
Mais ça, tu parles, il y en a un qui est du présent et puis les autres du passé, mais en quoi ça t'impacte, ça impacte ta vie à toi, jeune adulte de 21 ans?
En tant que jeune adulte de 21 ans, c'est assez fou de voir qu'on a dit plus jamais juste après des génocides tels que la Shoah et que finalement on en revit un maintenant comme le génocide qui est en train de se passer à l'heure actuelle à Gaza et aussi l'esclavagisme moderne au Congo et dans d'autres pays comme les princes émiratis qui sont actuellement en train de tuer, massacrer des enfants au Soudan. Et donc, ce sont des adultes et je pense personnellement que je ne prendrai pas exemple sur ces personnes-là.
Bah. Les jeunes ne sont pas le problème, mais ils sont la solution.
Oui et non. Donc, moi, je dirais qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont la solution pour demain et qui sont le changement de demain, mais il y a aussi beaucoup de jeunes endoctrinés par le système. Moi, je me situe entre les deux. C'est-à-dire que je me soucie beaucoup de la cause humanitaire, mais à la fois, j'ai ce côté un peu superficiel et je l'assume, je l'admets. Et je pense qu'il y a beaucoup d'autres jeunes un peu dans mon cas, à moi.
Tu appartiens à ta culture, tu appartiens à tes parents.
Oui et non. Moi, je dirais qu'on n'appartient pas forcément à sa culture et qu'on n'appartient pas forcément à ses parents parce qu'on peut déjà venir de plusieurs cultures, comme moi. Par exemple, j'ai une mère qui est d'origine marocaine et un père qui est d'origine palestinienne et russe. Et donc, je ne me retrouve pas énormément dans la culture marocaine, par exemple, ou dans la culture russe également. Et je me retrouve bizarrement un peu plus dans la culture belge que dans les autres. Et ensuite, je n'ai pas vraiment l'impression d'appartenir à mes parents. Je suis ma propre personne et j'ai ma propre liberté, mes propres rêves, mes propres ambitions et voilà.
Tes choix t'appartiennent?
Oui et non. Moi, je dirais qu'on dit souvent qu'on a toujours le choix, mais ce n'est pas vrai, c'est faux. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas le choix comme des petites filles en Afghanistan ou d'autres filles en Inde ou des enfants en Afrique du Sud ou autre. Enfin, je dirais que oui et non. Ça dépend de si tu vis dans le bon côté du monde ou pas. Si tu es né dans les pays où tes droits t'ont été donnés, où ta liberté t'a été donnée. Enfin, si tu es une petite fille en Afghanistan, je dirais que non, tu n'as pas le choix et tu n'as pas ta liberté. Et voilà, tes choix ne t'appartiennent pas, mais pour la plupart du temps, ils appartiennent aux talibans, par exemple, ou à d'autres personnes. Et donc, je dirais que tes choix t'appartiennent si tu as la liberté d'avoir ces choix. Si tu ne les as pas, c'est un problème.
Les autres ne t'appartiennent pas.
Alors, oui et non. Je dirais que quand on est parent et qu'on a un enfant entre 1 et 12 ans, l'enfant m'appartient dans le sens où c'est mon devoir et mon droit légal d'éduquer mon enfant. Enfin, quand je dis éduquer, c'est bien sûr l'éduquer de manière saine et sans violence. Et voilà, enfin, je dirais que ça dépend vraiment du contexte et autres. Mais donc, bien sûr qu'en tant que personne, mais imaginons que je sois entrepreneur et que j'ai des restaurants, bien sûr que mes salariés ne m'appartiennent pas. Mais le respect des règles de la société, tout ça, enfin, le respect m'appartient. Et donc, je dirais que non, les autres ne t'appartiennent pas forcément, mais ça dépend vraiment du contexte dans lequel on est et que le respect des autres m'appartient. C'est-à-dire que si je suis une personne respectueuse, je mérite de recevoir le même respect que je donne et voilà, c'est tout.
Une dernière, c'est tes idées t'appartiennent.
Oui et non. Oui et non. Je dirais que, ben, personnellement, oui, tes idées t'appartiennent, mais ce n'est pas parce que ton idée t'appartient que tu te dois de les partager. Ça veut dire que c'est comme un peu pour Adolf Hitler, il avait ses propres idées à lui, et c'est pas parce qu'il avait ses idées à lui qu'il pouvait se permettre de les donner, même s'il les a données malheureusement, et ça a engendré la mort de plusieurs personnes. Et donc, je dirais que mes idées m'appartiennent à partir du moment où elles restent dans ma tête et où si ce sont de bonnes idées et qu'elles ne vont pas forcément
nuire à autrui.
Enfin, ben, là, oui, mes idées m'appartiennent, mais sinon, si ce sont de mauvaises décisions, de mauvaises idées qui vont nuire à la santé mentale d'autres personnes, à leur santé physique, à leur bonheur, non.
Je te remercie beaucoup, Ambar, et on écoute une petite musique, si tu le veux bien.
Oui, bien sûr.
Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance, sans lui je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro, une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Oh ma douce souffrance.
On revient dans le studio, si tu veux bien,
okay.
Pour ici des questions un peu plus ouvertes. Je te propose cette phrase. J'ai le sentiment d'appartenance quand... Trois petits points.
J'ai un peu cette impression d'avoir le sentiment d'appartenance à personne ou à rien, forcément, mais à moi-même. Enfin, j'ai vraiment cette impression d'appartenir à moi-même, à ma propre culture, à mes propres idéologies, à ma propre personne et à moi-même. Enfin, j'ai pas forcément l'impression d'appartenir à tel ou tel groupe parce que je suis quand même assez divers. C'est-à-dire que je me mélange à beaucoup de personnes, à beaucoup de cultures, à beaucoup de personnes. Et donc, enfin, j'ai un peu cette impression d'appartenir à beaucoup de choses et à la fois à rien. Et je pense que c'est ce qui fait que j'appartiens à moi-même. Et c'est tout.
Je peux continuer mon canevas de petites questions ?
Bien sûr.
Parce que là, la deuxième, c'est « Je n'ai pas ce sentiment d'appartenance dans ma famille quand… » Trois petits points.
Dans ma famille ? Ok. Je n'ai pas ce sentiment d'appartenance dans ma famille quand la culture et la religion vient avant la liberté des choix, avant la liberté de beaucoup de choses. Parce que je viens d'une famille, une partie de ma famille est musulmane et l'autre est chrétienne. Et ils sont quand même très croyants et très pratiquants. Et donc, je n'ai pas ce sentiment d'appartenance quand la culture et la religion prônent avant la liberté de soi. Et voilà.
Que signifie pour toi appartenir ?
Appartenir, c'est... Parfois, on sent qu'on appartient à une culture, à une religion comme la religion chrétienne, juive ou musulmane. Et donc, je pense que le fait d'aller dans une église qui t'accueille et qui te respecte, et dans cette église, il y a d'autres personnes pratiquantes comme toi. Et le fait de te retrouver là, c'est un sentiment qui fait que t'appartiens. Et donc, je pense que c'est ça, appartenir. C'est finalement appartenir à une communauté, à une culture. Tu peux même appartenir à un sport, un club. Par exemple, j'ai fait de la boxe et justement, je vais reprendre la boxe dans un mois et demi. Et donc, le simple fait de partir dans ce club de boxe, de retrouver d'autres personnes qui font de la boxe et qui partagent la même passion qui est la boxe et donc qui ont ce rythme horaire qui fait qu'ils vont le lundi, mardi et vendredi par exemple et que moi aussi je vais le lundi, mardi et vendredi, j'ai l'impression d'appartenir, pas juste une impression mais j'ai vraiment ce sentiment d'appartenir au club et d'appartenir à la passion que ces autres personnes partagent également.
Peux-tu donner un exemple où tu t'es senti vraiment, mais vraiment à ta place ?
Parce que j'ai jamais vraiment appartenu, à part quand j'étais plus jeune, je pense que j'avais 15 ans, et j'avais pas vraiment d'amis avant mes 15 ans. J'étais un peu, pas introverti, plus extraverti, mais un peu aussi dans mon coin, et aussi j'avais une personnalité... assez bizarre pour d'autres jeunes. Enfin, j'étais un peu autiste sur les bords. Et donc, quand j'ai eu 15 ans, j'ai eu ce groupe d'amis où, pour une fois, j'avais l'impression d'appartenir à quelque chose. Et il y avait ce respect, et ce respect qui était mutuel. Et il y avait aussi cette affection qu'on avait l'un pour l'autre. Et on était un peu tous les quatre contre les autres personnes de l'école, tout ça. Pas contre les autres, vous voyez, mais on avait vraiment ce groupe où on était nous et on voulait pas forcément laisser d'autres personnes rentrer dans le groupe. Et on était vraiment nous, quoi. Je sais pas si vous avez compris. Et donc,
exclusif là, aussi.
C'est ça. Je pense qu'on était assez exclusif pour ne pas laisser d'autres personnes venir et peut-être nuire au groupe. Et je pense que à ce moment-là, j'avais vraiment l'impression d'appartenir à quelque chose, à un groupe, et voilà.
Est-ce qu'on peut en bar appartenir à plusieurs maisons à la fois?
Moi je dirais oui à 10 000%, et c'est ça aussi qui peut aider beaucoup de personnes, c'est le fait d'être dans un environnement qui est assez divers. Ça aide vraiment pour ta santé mentale, surtout quand t'es jeune, tu peux fréquenter plusieurs maisons de jeunes, et déjà, tu peux fréquenter plusieurs sports, comme tu peux très bien faire du basketball, comme tu peux faire du breakdance en même temps, comme tu peux faire de la danse en même temps, comme tu peux faire de la musique en même temps, comme tu peux faire du piano en même temps, enfin ça va dans la musique, mais tu peux faire énormément de choses. Et donc moi je dirais que oui. Après, il y a des endroits, enfin, ce serait un peu bizarre si tu fréquentes les deux endroits à la fois, mais tu peux, par exemple, moi, ce que je fais, c'est que j'adore visiter, vous voyez, les églises et les mosquées aussi, parfois en Turquie, à Istanbul. J'adore aussi partir dans les synagogues, surtout celles d'Anvers, et donc je vais pour visiter, mais après, ce serait un peu bizarre de pratiquer les trois religions à la fois, je vois pas, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et aussi, je dirais que tu peux pas fréquenter... Enfin, tu peux, mais ce serait vraiment bizarre de fréquenter un groupe d'extrême droite et un groupe d'extrême gauche à la fois. Ce serait vraiment pas en accord avec ta personne, à part si t'es vraiment assez stupide ou assez louche. Si t'es une personne assez... Je sais pas, peut-être que tu fréquentes les deux groupes pour avoir un peu les mentalités des deux personnes. Mais si vraiment une personne fréquente les deux groupes parce qu'elle a aucun problème avec les intérêts de l'extrême gauche et les intérêts de l'extrême droite, c'est qu'il y a un problème. Il y a une petite faille dans les calculs, quoi. Ce serait bizarre.
Est-ce que tu peux être toi-même partout ou est-ce qu'il faut parfois cacher certaines parties de toi ?
Je dirais que tu peux être toi-même partout quand tu as la liberté. Enfin, quand tu as la liberté de le faire. Enfin, je dirais que oui. Tu peux toujours être toi-même à 100%, mais surtout quand tu as la liberté de le faire. C'est-à-dire que, bien sûr, que tu ne peux pas être autant extraverti dans ton travail. Imaginons que tu sois étudiant, que tu sois serveur dans un restaurant et que tu aies envie de danser et ça fait partie de toi, c'est ta personnalité. Tu ne peux pas le faire. Mais si tu étais, si tu travaillais pas dans un restaurant ou si tu avais l'aisance financière de le faire et que tu avais ta propre personne, ta propre personnalité, oui, ça dépend de la liberté que tu as de faire quelque chose. Là, par exemple, ici dans ce studio, j'ai ce sentiment d'appartenir.
Parce que je t'y invite. Parce que nous sommes deux aussi.
C'est ça. Parce qu'il y a aussi ce côté où je te connais quand même assez depuis longtemps. Et du coup, ben, je sais que tu n'es pas en train de juger mes propos, tout ça. Et donc, je sais qu'il y a une bienveillance derrière. Et du coup, j'ai ce sentiment d'appartenir à quelque chose qui est sain. Et voilà.
Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
Oh bébé, oups mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire. Depuis hier, putain, je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas, hé, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, ça fait autre chose à faire.
Question sur les cercles d'appartenance et l'exclusion. Alors, quel cercle compte le plus pour toi et pourquoi ? Les cercles d'appartenance.
Ça, c'est une question qui est assez délicate parce que parfois. T'as pas vraiment de cercle. Je sais pas si tu comprends un peu. Moi, j'ai l'impression que le cercle que j'ai et qui est vraiment important pour moi, c'est le cercle que j'ai avec ma propre personne. C'est moi, j'ai ce cercle où je vais être tout à fait honnête avec vous ici. Je parle à ma personne. Enfin, je parle à ma personne. J'aide ma personne à aller mieux. J'aide. Et quand je dis ma personne, je m'aide moi-même. J'aide ma santé mentale, j'aide mon physique, j'aide ma santé physique également. Je m'aide moi-même et j'ai vraiment ce sentiment d'avoir un cercle avec moi-même. Et du coup, je pense que quand on a ce cercle avec soi-même qui est quand même assez sain, par exemple, je vais à la mer tout seul, je vais au cinéma tout seul, je vais au restaurant tout seul, je vais au fast-food seul, je vais au musée seul. Et je trouve que quand on a ce sentiment d'appartenance avec soi-même, peu importe où on va, et on n'a pas peur d'être seul, mais on se sent vraiment bien.
J'avais une question suivante en barre. C'est, okay. Est-ce qu'on peut se construire et grandir sans avoir de groupe d'appartenance ?
Moi, je dirais oui et non, parce que ça dépend toujours du contexte. Si on est jeune, qu'on est vraiment petit et qu'on n'a pas notre famille derrière, on grandit souvent... pas très bien parce qu'on n'a pas cette sécurité familiale derrière. Et quand on grandit seul, sans amis, ça crée aussi beaucoup de traumatismes. Ça dépend souvent du contexte et de quel groupe est-ce qu'on parle exactement.
Tu peux prendre aussi les groupes d'appartenance, par exemple. C'est pas des... Tu parlais d'amis tout à l'heure.
Et c'est
vous
ça.
Étiez dans une forme d'exclusivité.
C'est ça.
Vous essayez parfois de mimer, de vous ressembler. Et vous, le temps passe comme ça. Mais vous faites c'est aussi ça. L'apprentissage d'expérience
c'est
que
ça.
Vous allez motiver ensemble parce qu'il y a une grande force. Voilà, ce serait te priver de tout ça aussi.
Mmh. Après, il y a beaucoup de personnes, enfin moi, dans mon exemple à moi, j'ai grandi, le seul moment où j'avais vraiment des amis, un groupe d'amis, c'était à mes 15 ans, mais juste après mes 15 ans, j'ai directement refermé ma bulle parce que aussi j'ai repris les cours à la maison et j'étais plus vraiment dans le système scolaire. Et donc, j'étais vraiment souvent seul. Et quand je dis seul, c'est que même chez moi, à la maison, j'étais toujours dans ma chambre ou toujours en train de regarder un film ou jouer à la PlayStation. Ou quand je sortais, je sortais dehors et je jouais au basket, tout ça. Et donc, j'étais toujours avec moi-même. Et j'ai pas eu... bien sûr... que j'aurais aimé avoir une personne avec une personne ou deux ou trois avec lesquelles faire des activités, mais au plus je grandis et au plus j'ai adoré ces moments de ma vie où j'étais seul. Et même là maintenant, j'ai toujours cette impression de que je vais mieux quand je suis seul, parce que quand je suis seul, j'ai pas besoin de réfléchir à est-ce que cette personne m'aime vraiment bien, est-ce qu'elle parle sur moi quand je ne suis pas là. Et ça m'est arrivé beaucoup, beaucoup trop souvent que des personnes parlaient sur moi quand je n'étais pas là, mais qui me souriaient au visage. Et tous les moments où j'ai été seul, je n'avais pas besoin de réfléchir à ça. Et même là maintenant, j'ai des amis, mais j'ai toujours cette préférence, à part pour ma meilleure amie, j'ai toujours cette préférence d'être seul d'être avec d'autres personnes, parce que j'ai cette relation qui est assez saine avec moi-même, où j'ai pas besoin de quelqu'un qui est là pour être validé ou autre. Et c'est vraiment des moments de ma vie que j'adore, qui peuvent faire peur à beaucoup de personnes qui sont peut-être assez insécures ou qui ont peut-être vraiment besoin de beaucoup de validation. Mais moi qui ai quand même fait beaucoup de travail sur moi-même que pour apprécier ma personne, non, j'ai pas vraiment besoin d'appartenir à un certain groupe pour me sentir bien. Pas du tout.
En barre, est-ce qu'il existe des clés, des codes spéciaux pour appartenir à des groupes ?
Oui et non. Mais encore une fois, ça dépend beaucoup du contexte. C'est comme un peu les communautés dans les universités, il y a des codes et il y a des clés pour appartenir à ces communautés. Les cercles étudiants par exemple, il y a une clé et qui est le respect de la charte, la charte et tout ça. Donc ça dépend toujours et souvent du contexte dans lequel on est, parce qu'il y a parfois pas de règles pour appartenir à quelque chose. C'est un groupe d'amis, par exemple, t'as pas vraiment de règles, à part les règles de vie, quoi, enfin les règles de respect de l'autre et tout ça. Donc je dirais que ça dépend de quelles règles ou de quelles clés dont on parle.
Ouais, il y a des clés, c'est ce que j'ai noté, visibles et invisibles.
C'est ça.
Les visibles, c'est peut-être l'argent, c'est peut-être tes intérêts,
c'est peut-être
la beauté physique, comme tu le disais tout
c'est
à
ça.
L'heure, l'intelligence. Mais... Et donc, les valeurs et les codes et les clés invisibles, c'est peut-être les valeurs,
c'est ça,
etc.
C'est comme un peu, on va dire, le mannequinat. Et donc, dans le mannequinat, il y a surtout les traits physiques, le charisme, la beauté, le charme. Et plus encore, au-delà du physique, il y a aussi parfois la carrière des parents et plus encore. Et c'est souvent quelque chose un peu plus superficiel qui fait que tu peux entrer dans ce groupe. Et ensuite, il y a d'autres groupes un peu plus sur l'environnement, par exemple des groupes qui veulent planter plusieurs arbres dans des pays en déforestation. Mmh. Donc pour ces groupes-là, c'est un peu plus le fait d'avoir des valeurs environnementales, humaines. Et donc oui, il y a souvent des clés qui sont invisibles, qu'on ne peut pas voir. Et ensuite, il y a des règles qui sont invisibles, comme entrer dans un groupe au casino. C'est pour entrer dans ce groupe au casino dans lequel c'est souvent des personnes un peu plus aisées financièrement. Ben, faut avoir l'argent sous la table. Il faut qu'il y ait de l'argent visible sous la table, sur la table, pardon. Et donc oui et non. Encore une fois, ça dépend très souvent du contexte.
Est-ce que toi, tu as déjà changé une partie de toi pour être accepté en bar?
J'ai mis un appareil dentaire quand j'étais plus jeune et c'était pas pour moi directement parce que j'aimais bien mes dents déjà, mais c'était plus pour être beaucoup plus accepté parce que vous voyez, on vit dans un monde où surtout quand on est jeune, je pense que quand on vieillit un peu plus, on n'a pas vraiment on le voit moins, mais quand on est jeune et qu'on n'est pas assez attirant, il y a beaucoup de complexes qu'on peut avoir qui ne se voient pas directement. Hein, et donc, oui, j'ai changé énormément de choses en moi et que je change encore aujourd'hui. Et donc, oui, voilà, c'est tout.
Pourquoi tu souris?
Je ne sais pas, parce que...
c'est un domaine sensible aussi. Hein.
Oui, c'est ça. Mais en fait, quand on est jeune, surtout dans un monde comme celui-là, et... je dirais que moi qui viens d'une famille assez défavorisée, j'ai eu l'impression d'avoir plus le droit à des expériences professionnelles parce que j'étais beau physiquement que parce que je venais de ma famille. Par exemple, j'ai un ami néerlandophone qui lui est assez comment je pourrais dire ça de manière gentille, parce qu'on a eu cette discussion ensemble, et qui, lui, n'est pas assez attirant, on va dire, dans les critères de beauté de la société. Et donc, la majorité des travaux qu'il a reçus, c'est parce que ses parents ont un nom directement, vous voyez. Et donc,
ont quoi ?
Ont un nom directement, je ne sais pas si vous avez compris un peu, ses parents sont un peu aisés financièrement, beaucoup trop aisés financièrement. Et donc, la carrière professionnelle qu'il a eue et les travaux qu'il a eus, les jobs étudiants qu'il a reçus, c'est parce qu'il avait des parents qui ont déjà une carrière professionnelle. Et ensuite, moi, la carrière professionnelle que j'ai eue, les expériences professionnelles que j'ai eues, les travaux que j'ai eus, c'est aussi parce que j'avais ce critère de beauté qui rentre dans... Enfin, j'avais ce critère de beauté qui rentre directement dans les critères de la société actuelle.
D'une partie de la société.
C'est ça. Et donc... et donc
d'une grande partie. Là.
et donc, quand on voit... Enfin, je dirais que quand on vient d'une famille défavorisée et qu'on voit que la seule manière pour avoir plus de droits... Enfin, plus de carrière professionnelle que d'autres personnes, on mise beaucoup sur la beauté. Et aussi, la beauté, c'est un investissement. Moi, je dirais que la beauté, c'est aussi beaucoup un investissement. Quand on parle de changer, il y a beaucoup de choses qu'on veut changer. Par exemple, là maintenant, je voulais changer mon physique, mais quand j'ai changé mon physique, c'est aussi plus de manière naturelle, comme le sport, la musculation... pour rester en bonne santé, manger un peu plus sainement. Il y a différentes façons de changer sa personne en étant tout à fait naturel, mais aussi superficiel.
Avant que tu ne rajoutes beaucoup, beaucoup de choses, je voudrais juste te poser la question. Qu'est-ce que ça dit des groupes d'appartenance que tu viens de dire?
C'est que ce que je viens de dire, ça veut dire que parfois, tu peux appartenir à un groupe d'appartenance sur un critère qui est un peu plus superficiel, comme la beauté. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de groupes d'amis qui se focalisent sur la beauté de l'autre. Enfin, j'ai eu des amis comme ça qui ont rejeté d'autres personnes dans leur groupe parce que, par exemple, la fille est un peu plus grosse ou... comment je pourrais dire ça de manière un peu plus respectueuse? La fille est un peu plus... Non, attends.
Elle ne rentrait pas dans leurs critères.
Dans leurs critères. Et donc, d'autres garçons qui aussi ne rentraient pas dans leurs critères. Et donc, moi, je dirais que parfois, un groupe d'appartenance peut se faire de manière très superficielle, comme là maintenant. Et quand tu m'as demandé si j'ai déjà changé quelque chose en moi pour appartenir. Oui, et je compte encore changer beaucoup de choses en moi qui ne sont pas juste physiques, mais également comment je pourrais dire ça, par exemple, à l'université, enfin, dans un an ou deux, j'aimerais retourner à l'université. Et donc, il y a ce côté un peu éducatif qui fait que j'ai envie d'appartenir à un groupe qui est un peu plus éduqué sur la politique, qui est un peu plus éduqué sur les affaires internationales, tout ça. Et donc, le simple fait de vouloir changer ma personne directement... parce que quand j'étais plus jeune, je pensais pas beaucoup à ces choses-là. Et donc là maintenant, j'ai envie de changer ma personne, que ce soit physique ou que ce soit éducatif. Et donc il y a aussi ce côté où je suis jeune et je vois bien le monde dans lequel on vit. Et c'est triste à dire, mais il y a aussi ce côté budgétaire et j'aimerais beaucoup changer mon train de vie, enfin, que ce soit plus superficiel ou non. On est jeune, on vit dans un monde assez capitaliste, encore plus capitaliste chaque jour. Et donc, il y a aussi ce côté où j'ai envie de travailler plus que... Pas travailler plus, mais j'ai envie de travailler plus pour avoir plus d'argent. Et je sais que c'est bizarre à dire, mais j'ai envie d'étudier, de travailler, de faire beaucoup plus d'argent qu'une autre personne dans mon université ou... J'ai envie de me donner plus pour avoir plus. Je ne sais pas si c'est assez compréhensible. Mais c'est clair.
Je vais vous raconter, avant de vous quitter, l'histoire d'un petit village près de Napoli. Nous étions quatre amis, au bal tous les samedis, à jouer, à chanter toute la nuit. Giorgio à la guitare, Sandro à la mandoline. Moi je dansais en frappant du tambourin, mais tous ceux qui venaient, c'était pour écouter celui qui faisait battre tous les cœurs. Et quand il arrivait, la foule s'écriait:
mais tout le monde l'appelait Gigi l'amour et les femmes étaient folles de lui.
Est-ce plus facile ou plus difficile de trouver sa place aujourd'hui? Qu'est-ce qui, d'après toi, rend cela plus difficile? La place dans la société.
Trouver sa place dans la société, alors ça dépend parce qu'il y a plusieurs catégories dans la société. La société, c'est la gauche, la droite, les clubs de sport. La société, c'est l'être humain en général. Et donc, j'ai l'impression que c'est plus facile aujourd'hui qu'il y a 200 ans de trouver sa place, parce qu'il y a 200 ans, il y avait l'esclavage, il y avait beaucoup plus. Et donc, oui, aujourd'hui, c'est plus facile de trouver sa place quelque part que...
Tu remontais à 200 ans, mais tu as l'image de tes parents aussi. Je vais me permettre une question. Est-ce que tu trouves que c'est plus facile aujourd'hui que par rapport à l'époque où tes parents avaient ton âge, par exemple?
Enfin, je dirais que c'est vraiment 50-50, parce qu'il y a 30 ans, il y avait ce côté où pour nos parents, par exemple, que ce soit nos parents immigrés et toi qui es d'origine grecque, je pense qu'il y a aussi ce côté où il y avait quand même de la discrimination envers les personnes plus méditerranéennes qu'occidentales. Et donc, oui, il y avait beaucoup de racisme et de discrimination, mais cette empathie qui a disparu parce qu'il y a 30 ans, enfin, il y avait quand même plus d'empathie, et il y avait quand même beaucoup plus d'aide que là maintenant. Là maintenant, il y a de l'aide, mais j'ai l'impression qu'il y a 30 ans, c'était quand même plus facile d'être une famille, que ce soit une famille caucasienne ou une famille immigrée, et d'avoir un salaire et de réussir à vivre.
Il y a 30 ans, pour toi, c'était plus facile.
Oui, totalement. Pour vivre en société, pour appartenir à un groupe en société, c'était beaucoup plus facile il y a 30 ans que là maintenant. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça dépend toujours du contexte dans lequel on est. Mais oui, il y a 30 ans, c'était totalement plus facile de vivre que là maintenant. Et après, il y a 30 ans, c'est pas il y a 200 ans, c'est vraiment 30 ans et c'est pas si, si loin que ça. C'est juste que là maintenant, il y a beaucoup de choses qui se sont empirées dans le monde. Et c'est un peu le continu de la vie, c'est l'histoire se répète et voilà.
On parle souvent d'appartenance en bar à une famille, à un groupe.
Oui.
Mais est-ce que tu te sens appartenir à ton pays, à l'État belge ?
Donc, ok.
T'as l'air contente de cette question.
Oui, justement. En gros, j'ai eu une très grosse crise identitaire quand j'étais plus jeune. Qui a fait que je savais pas vraiment qui j'étais. Et finalement, je suis né à Bruxelles. Enfin, j'ai pas toujours vécu en Belgique ou à Bruxelles. Mais je suis né à Bruxelles. Et donc, j'avais vraiment l'impression d'appartenir à aucun pays finalement. Enfin, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, ma mère est d'origine marocaine et elle a aussi d'autres origines juives, tout ça. Et puis j'ai mon père qui est palestinien et russe à la fois. Et donc quand on a plusieurs origines, on a déjà ce... Quand on a plusieurs origines, ben, on a déjà ce côté où on ne sait pas vraiment qui on est. Et finalement, j'avais vraiment l'impression de ne pas savoir où j'étais ou ce que je faisais en Belgique. Et j'avais vraiment cette impression de détester le pays. Parce que, pas de détester la Belgique directement, mais de détester l'endroit dans lequel j'étais parce que j'étais pas heureux et j'avais l'impression de vivre, de vouloir vivre dans un pays où il y a du soleil, tout ça, mais en détestant l'endroit où j'étais actuellement. Et c'est vraiment dur à accepter. J'ai vraiment pris énormément de temps à apprécier l'endroit où j'étais et au plus j'ai grandi, au plus j'ai réalisé que je suis belge avant, en fait, j'ai vraiment eu cette impression d'être belge à partir de mes 18 ans. Parce que je me suis dit que j'étais belge avant d'être marocain, avant d'être palestinien, avant d'être russe. Et que je vis en Belgique, j'étudie en Belgique. Quand j'ai besoin de soins de santé, je vais dans des hôpitaux belges. Que, ben, le Maroc, c'est pas un pays qui m'a fait grandir. C'est pas un pays qui a des valeurs qui sont justes, selon moi. Et donc, j'ai vraiment pris du temps. J'ai vraiment réfléchi. En plus, je réfléchis encore à cette question énormément aujourd'hui. Et donc, j'ai vraiment pris le temps de réfléchir et je me suis dit, dans ma tête, le Maroc, c'est vraiment un des pays que je n'aime pas. Et ensuite, ben, la Palestine, c'est pas un pays, c'est un État, malheureusement. Et la Russie, c'est un pays qui a des valeurs que je ne partage pas, comme l'invasion en Ukraine aujourd'hui. Et donc, en plus, c'est vraiment bizarre parce qu'il y a 5 ans de ça, j'aimais pas vraiment, je dirais pas la Belgique, mais surtout la ville de Bruxelles. Aujourd'hui, la Belgique, c'est vraiment un pays auquel je sens que j'appartiens. Demain, pour ma carrière professionnelle, enfin, je dirais dans 2-3 ans, quand ma carrière professionnelle commencera, je dirais pas que je suis de telle ou telle origine, mais je dirais directement que je suis belge, parce que la Belgique, c'est le pays où je suis né. C'est le pays qui m'a fait grandir, c'est le pays qui m'a donné mes droits, c'est le pays qui m'a donné mes droits sociaux, c'est le pays qui me soigne quand je suis malade et pour des prix abordables. Enfin, quand je paye pas très, très cher, quoi. Enfin, si je tombe malade demain, ben, je vais à la pharmacie ou je vais aux urgences et ils viennent directement me chercher ou je vais sur place. Et donc, pour répondre à ta question, oui, j'appartiens, je suis belge à 10 000% et je dirais même que je suis belge avant d'être d'origine palestinienne, avant d'être d'origine marocaine et avant d'être d'origine russe. Je dirais que je suis belge avant tout Et même dans le cas où demain, enfin, et ça, je le dis, dans le cas où demain il y a une guerre directe avec la Belgique, je défendrai le pays. Et voilà. Et c'est ce qui fait que je me sens belge. Je dirais que oui, je me sens belge à 10 000%, à 1 million de pourcents. Et même si une personne belge, blonde aux yeux bleus, me dit que je ne suis pas belge, ce n'est pas mon problème parce que je suis belge, autant belge que telle ou telle personne. Et je sais que quand ma carrière professionnelle commencera vraiment, et pour mes projets qui sont quand même des projets où je vais devoir présenter un pays, je présenterai la Belgique avant n'importe quel autre pays. Et donc, même pour le sport, quand je pratique un sport, si je dois représenter un pays, je représenterai la Belgique à 1 million 2%. Et voilà.
Je te remercie énormément. Et puis, tu as répondu à la plupart des questions qui venaient ensuite.
Okay.
Je te proposerai de terminer comme je le fais avec les autres jeunes. Hein. La diversité culturelle en bar, richesse ou source de tension pour toi ?
Encore une fois, ça dépend toujours du contexte. Moi, je dirais que c'est une richesse et aussi une source de tension parce que parfois la culture et la religion d'autrui peut nuire à la société, comme on va parler là maintenant des fanatiques religieux comme les prêtres dans les églises qui utilisent la religion dans un contexte assez spécial pour pouvoir peut-être violer des enfants. Il y a eu énormément de cas comme cela. Et ensuite, il y a les intégristes extrémistes qui se prétendent musulmans et qui créent des attaques terroristes. Et donc, c'est assez délicat et c'est pas une richesse. C'est pas vraiment une richesse, mais surtout une source de tension. Pour moi, la richesse culturelle, c'est le fait d'apporter sa culture dans le respect, dans la liberté d'autrui, sans nuire à autrui. Et donc, c'est souvent une richesse et aussi une source de tension quand c'est mal utilisé et quand on l'exprime pas correctement. Et voilà.
Si tu devais résumer, maintenant que l'on arrive au terme de cette émission, résumer l'appartenance en un mot ou une image, ce serait quoi ?
Je dirais une image de la planète, voilà, de la planète mais dans l'espace, de la planète Terre mais dans l'espace, cette image-là, enfin, la planète dans l'espace avec les autres planètes à côté. J'ai complètement oublié quelle planète il y avait à côté de la Terre.
Vénus,
non.
Mars. Mercure,
ok.
Mais qu'est-ce que tu veux dire ?
Saturne ?
Oui,
non, ok.
Un peu plus loin.
Ok. Mais je dirais justement cette image-là de la planète dans l'espace avec les autres planètes et les étoiles, tout ça. Et donc la planète qui appartient à l'espace. Et voilà, ce serait cette image-là.
Fragile ?
Non. Enfin, l'image telle qu'elle est. La planète dans l'espace avec les étoiles, les autres planètes et voilà.
Et toi, tu te situes où ?
Dans
tout ça.
Dans tout ça. Dans l'image. Ok, moi, je me situerais dans... Est-ce que la lune est à côté des trucs ? Est-ce qu'on la voit dans l'image ou pas du tout ? Toujours ? Ok, je dirais que je me situe dans la lune. Enfin, que je suis la lune avec les planètes à côté.
Merci.
C'est ça.
Merci. Et tu dirais qu'appartenir, ça rend plus fort ou ça complique la vie ?
Ça dépend toujours du contexte. Je dirais que ça rend plus fort dans la plupart des... Dans la plupart des cas. Le plupart des cas, pardon. Et donc, parfois, ça complique la vie parce que tu appartiens sans le vouloir à quelque chose qui peut nuire à autrui. Et c'est comme... tu peux... C'est comme, on va dire, il y a 50, 60 ans, quand t'avais un père qui était nazi et t'étais pas vraiment au courant, et donc t'appartiens à ce régime sans le vouloir. Et donc, parfois, ça complique beaucoup la vie. Mais la vie d'autrui et ta propre vie personnelle aussi. Et voilà.
Merci beaucoup d'avoir partagé, Rambard, ce moment et ce carnet de route. Okay. On a tourné autour d'un mot pas si simple, l'appartenance, et je crois qu'on n'a pas encore fini de l'explorer. On se quitte avec ta dernière musique, comme une petite signature sonore.
Ok. Ah, c'est moi qui chante.
Si tu veux.
Ok. Parce que c'est...
Et bon, ok. Et on se quitte avec et une justement, petite signature bizarrement, sonore.
Tu dis... La musique parle aussi d'appartenance.
Dis, t'es content d'avoir fait ce travail avec moi ?
Oui, okay. Super content.
Merci.
Merci beaucoup. Merci à toi. I'm sorry if I seem uninterested. I'm not listening. I mean different. Truly, I ain't got no business here. But since my friends are here, I just am the kicker. But really, I would rather be at home all by myself, not in this room with people who don't even care about my well-being. And I don't dance, don't ask, I don't need a boyfriend. You can go back, please enjoy your party, I'll be here. We're in the corner, on the clouds of marijuana. I can hardly hear. I've heard this music I don't listen to. Don't wanna get with you, so tell my friends that I be over here. Oh, here. Oh, here. Oh, I ask myself, what am I doing here? Oh, here. Oh, here. And I can wait and we can break apart here. If I seem alert, I'm not impressed with this. An antisocial pessimist, but usually I don't mess with this. And I know you mean only the best, and your intentions are to bother me. But honestly, I'd rather be somewhere with my people. We can kick it and just listen to some music with a message like we usually do. Those are big dreams, are we plan to take over the planet? Pardon my manners, I hope you understand that I be here. In the kitchen with the girl who's always gossiping about her friends, I tell them I'll be here. Right next to the boy who's trying not, cause he can take what he needs, cough no more. Oh god, why am I here? Oh, here. Oh, here. Oh, I ask myself, what am I doing here? Oh, here. Oh, here. And I can't wait in when can break apart here.